France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le Conseil d'État valide sous condition le port du masque à l'extérieur dans le pays. Les sages ont estimé que les préfets du Bas-Rhin et du Rhône pouvaient imposer le masque sur l'ensemble d'une commune si elle comporte plusieurs zones à risque de contamination. L'idée est que cette obligation soit cohérente et facile à appliquer pour les citoyens dans les zones denses. Voilà ce que dit le Conseil d'État. Actuellement, cette obligation de porter le masque concerne donc 28 départements en France. Sachez que plus de 7000 nouveaux cas de contaminations ont été recensées hier sur le territoire, soit 25 000 en 3 jours. L'épidémie inquiète particulièrement dans les hôpitaux des Bouches-du-Rhône. Nous entendrons le chef de la réanimation de l'hôpital Nord à Marseille dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure aussi, zoom sur la compagnie maritime Brittany Ferries. Elle ferme de nouvelles lignes aujourd'hui entre la France et l'Angleterre. La France est malade de son insécurité. Voici les propos de Gérald Darmanin rapportés ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Le ministre de l'Intérieur s'engage à communiquer tous les mois les chiffres de la sécurité, c'est-à-dire les résultats en matière de violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles, le nombre de dérives sectaires signalées et les chiffres concernant la lutte contre les stupéfiants. C'est le 4e week-end de mobilisation à Minsk, en Biélorussie, contre le président Alexandre Loukachenko. Hier, au moins 100 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale, drapées des couleurs rouges et blanches de l'opposition biélorusse. Notez aussi les négociations sur le Brexit qui entrent dans leur phase finale aujourd'hui. Selon Boris Johnson, un accord avec l'Union européenne devra être trouvé avant le 15 octobre s'il veut entrer en vigueur avant la fin de l'année. Le Premier ministre britannique répète que le Royaume-Uni ne transigera pas avec son indépendance, faisant ainsi monter la pression sur Bruxelles. Et puis notez la reprise aujourd'hui du procès en extradition de Julian Assange. Il comparaît devant la justice britannique, l'audience ayant été suspendue à cause de la crise sanitaire. Le fondateur de Wikileaks est poursuivi par les États-Unis pour avoir violé les lois sur l'espionnage en diffusant des documents militaires classifiés.
Sur France Culture, la philosophie sème la zizanie. Le torchon brûle, Adèle.
On va se poser 4 questions pour se fâcher entre amis. Et oui, le paradoxe de l'œuf et de la poule, ce sera lundi. Collabo ou résistant, qu'aurais-je fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Mardi, faut-il dire à son meilleur ami que sa femme le trompe à la veille de son mariage? Mercredi. Et enfin jeudi, faut-il séparer l'homme de l'œuvre?
Les chemins de la philosophie par Adèle Vendrette, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr. Le 2 mai 1980, le jeune journaliste Edoui Plenel, débauché du Matin de Paris, arrive à la rédaction du Monde. 15 ans de très grand bonheur, dit-il, d'abord à la rubrique éducation, puis police. Il enchaîne les enquêtes et révèle à 33 ans l'affaire du Rainbow Warrior. Raconter le parcours d'Edoui Plenel, c'est aussi raconter l'histoire d'un succès journalistique, celui du site en ligne Mediapart. À voix nue, Edoui Plenel, cette semaine à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Avant de retrouver Toufik Hakem pour le réveil culturel, nous sommes avec Bruno David pour sa chronique Le Monde Vivant, qui est consacré ce matin à un sacré rusé, le renard.
Début 1942. Les chars de l'Afrika Korps foncent dans le désert de Cyrénaïque et bousculent les armées britanniques jusqu'aux confins de la frontière égyptienne. À leur tête, Erwin Rommel, d'une redoutable intelligence tactique et stratégique qui lui valut le surnom de renard du désert, une comparaison qui tombe sous le sens, comme en témoignent de multiples expressions ou proverbes qui font allusion à la réputation d'intelligence du renard. Rusé comme un renard, fin comme un renard, qualité immortalisée par les fables de Jean de La Fontaine. L'imaginaire européen associe ainsi le renard à la ruse, mais aussi, par extension, à la flatterie et au mensonge, voire même en Europe du Nord, au feu. Sans doute une allusion à la couleur de son pelage et à la malveillance. À force d'être trop malin, le renard finit par nous inquiéter. Il s'agit du renard roux, Vulpes vulpes, petit canidé largement répandu dans l'hémisphère nord, y compris en Afrique du Nord, comme quoi le surnom de Rommel était biologiquement plausible, même si l'on peut penser que ce sont plutôt des fennecs qui hantent le désert. En France, tout le monde a croisé un jour, de loin à l'orée d'un bois, ou de près écrasé au bord d'une route, ce bel animal. Mais qui est-il exactement ? Celui que l'on appelle aujourd'hui un renard était jusqu'à la fin du XVIIe siècle désigné sous le nom de goupil. En fait, le terme de renard provient d'un prénom donné à un personnage imaginaire. Ce prénom, c'est Renard, avec un T, attribué au personnage principal du roman de Renard, ensemble de récits animaliers écrits des XIIe au XIIIe siècle. Le héros n'est autre qu'un goupil très rusé qui mystifie animaux et humains. Le dicton populaire « malin comme renard » en est resté, puis le prénom du héros s'est substitué au nom de l'animal. Est-ce de là que vient la réputation de ruse et d'intelligence du renard roux ? Certainement pas, car il n'y a pas que chez nous qu'elle est répandue. Chez les Japonais, le renard, il s'agit scientifiquement d'une sous-espèce légèrement différente du renard européen, le renard japonais donc, est tout aussi rusé, il joue des tours et se trouve même doté de pouvoirs magiques, comme celui de se transformer en femme renarde. Plus il vieillit et plus ses métamorphoses sont diverses. Et plus il lui pousse de queue jusqu'à devenir le renard à neuf queues, animal légendaire maléfique du Japon, de Corée et de Chine. Dans le folklore chinois, la femme renarde est ambivalente, tantôt bienveillante, tantôt malveillante. Il semblerait donc que sa réputation d'animal très intelligent soit véritablement universelle. Cela n'est pas si étonnant, car une espèce capable de s'installer des forêts sibériennes aux steppes d'Asie centrale, aux forêts d'Europe de l'Ouest, capable de franchir les obstacles pour s'emparer de nos poules et enfin de s'accommoder de nos villes, ne peut pas être dépourvue de malice.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Aujourd'hui en compagnie d'Adrien Bels qui sort son premier roman, 5 dans tes yeux, aux éditions L'Iconoclaste. Et c'est peut-être le livre le plus drôle, le plus caustique, en tout cas au moins le plus surprenant de cette rentrée littéraire. Un roman qui parle de Marseille et de sa gentrification, d'une bande d'adolescents à la fin des années 90 et de ce qu'ils vont devenir deux décennies plus tard et de ce qu'il va advenir de leur quartier et de leur ville. C'est écrit avec une verve remarquable et un arrière-goût amer revendiqué. Un roman sur Marseille qui ressemble à Marseille, enfin.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Adrien Bels.
Bonjour Toufik.
Alors, votre premier roman, 5 dans tes yeux, édité chez l'Iconoclaste, est sorti il y a 3 semaines. Et il est accompagné ici d'un bon buzz, comme on ne disait pas d'ailleurs dans les années 90. Et mieux que le buzz, j'ai remarqué que de plus en plus de libraires le mettent en vitrine, ce qui est un très très bon signe, ça vaut au moins la reconnaissance de la presse. Et à Marseille, comment ça se passe? Est-ce qu'on parle de votre roman déjà? Si oui, comment est-il accueilli? Et combien d'ennemis vous êtes fait à cette occasion?
Tu sais quoi? En fait, le truc, c'est que je sors le roman, je suis un mec assez fêtard, je suis un mec assez festif, et du coup, on est en pleine crise sanitaire, donc j'ai un peu du mal à en profiter. Mais
il est bien accueilli par ceux qui l'ont lu?
Il est bien accueilli, j'ai plein de potes qui m'appellent. Après, c'est un peu tôt, quoi. C'est un peu tôt, mais j'ai beaucoup de retours, mais ça commence, j'ai pas l'impression... Ouais, ça commence. Il y a des retours. J'attends surtout le retour de mes potes.
Tant il est question dans ce livre, ouais. On va y arriver. Alors, 5 dans tes yeux, on n'expliquera pas le titre, pas tout de suite. On attendra la fin de cet entretien, si vous voulez bien, Adrien Bels. Mais il faut résumer l'histoire. Stress, le narrateur du roman, mérite amplement le surnom que lui ont donné ses amis de jeunesse du panier, la Casbah déglinguée de Marseille à la fin des années 90. Et 2 décennies plus tard, plus personne de cette bande de bad boys de Marseille n'habite le quartier en pleine gentrification. Stress, qui a raté sa vie à peu près comme il le souhaitait, aimerait tourner un documentaire sur ses amis d'enfance, mais il galère à trouver des financements. Il lui faudra alors négocier avec les nouveaux acteurs des institutions culturelles de la cité phocéenne, pour la plupart des venants de Paris ou de Lyon. Autrement dit, ces bobos qui, à leur insu ou pas, en venant vivre autour du Vieux-Port pour plus d'espace, de confort et de soleil, ont largement contribué à la gentrification des quartiers populaires du centre-ville de Marseille. C'est votre vie?
Est-ce que c'est ma vie? C'est ma double vie. Je sais pas, ouais, c'est ma vie. En tout cas, c'est inspiré, comme ils disent dans les livres, dans les films, c'est inspiré de faits réels. Beaucoup de choses que j'ai vécues, on s'arrange beaucoup aussi avec le réel, on brode.
C'est un roman.
C'est un roman.
Mais quand je dis que c'est un roman sur la gentrification du panier, donc de ce quartier populaire qui surplombe le vieux port.
Entre autres, c'est un roman je disais à un pote à qui j'ai dédicacé le livre, je citais Cheb Hasni, je disais Mazel les souvenirs, il nous reste que nos souvenirs. Mmh. Et ça part un peu de là, c'est-à-dire que. Mais après, comme je pense, comme plein de gens aussi, je vais pas dire il y a que moi, mais il reste plus rien de notre jeunesse. Il reste plus rien, il reste que l'image qu'on a dans les yeux, et c'était ça le point de départ de mon bouquin, c'est de dire je vais faire un roman pour rendre hommage à ce qu'on a vécu. Et après, je voulais aussi parler de Marseille d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ces allers-retours entre le présent et le passé. Mais le point de départ, c'est un corpus de scènes vécues avec des personnages qui sont parfois des fusions de personnages, qui ne sont pas vraiment des vrais personnages. Voilà, après, on rentre dans un truc qui est un peu comme de la mise en scène de cinéma, quoi. C'est-à-dire, voilà, on a vécu des choses, et après, comment on les raconte ? Et si c'est pas tout d'avoir vécu des choses, après il faut les mettre en scène.
À Marseille, on ne dit pas migrant ou réfugié, ça on l'apprend dans votre livre, on dit clando ou sans papier. Mais il fallait bien sûr distinguer ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui viennent de l'intérieur du pays. Eux, ce sont les venants.
Les venants, c'est une création littéraire. Les venants, c'est une expression qu'utilisait ma femme, qui est sénégalaise, et dans son quartier à Pikine. Pour dire, c'est ceux qui viennent d'ailleurs à Pikine, c'est une banlieue de Dakar, enfin Pikine, extension, elle est plus de Sicap. Et en fait, avec ses amis, ils appelaient les venants tous les gens qui viennent d'ailleurs, que ce soit de Guinée ou que ce soit de France.
Et vous l'appliquez aux Parisiens et aux Lyonnais, aux Bobos qui viennent à Marseille et qui contribuent réellement à la gentrification de Marseille.
Je voulais un terme qui soit différent de Bobo. Parce que Bobo, il y a un côté un peu fascisant aussi. Le Bobo, on le sort à toutes les sauces. Le Bobo, on ne sait plus trop qui c'est, en fait. Le venant, ça m'intéressait parce qu'il y a un côté aussi un peu envahisseur. C'est un peu le lézard dans la série V, quoi. Tu lui enlèves et puis tu découvres que c'est un lézard. Il y a un côté un peu...
Et pourquoi il a des problèmes avec les venants, stress ?
En fait, il a des problèmes avec les venants parce qu'il n'accepte pas... L'idée, moi, mes parents sont arrivés à Marseille dans les années 70. Ils se sont installés, ils venaient d'Algérie, et ils se sont installés à Marseille dans les années 70. Pour moi, de m'intégrer à Marseille, surtout dans un quartier populaire, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ce que je reproche à certains venants, pas à tous, c'est d'aller trop vite. C'est-à-dire que ce bouquin, c'est un peu comme un... Comme je disais, d'ailleurs, ça finit un peu comme ça. Je dis, Marseille, elle me dit, laisse-moi tranquille maintenant. Mmh. C'est un peu comme une femme à qui que je trouve belle, que je trouve magnifique, et à qui j'ai envie de dire, mais je t'aime, et j'arrive pas à lui dire, et du coup, elle part avec quelqu'un d'autre. Et en fait, le venant, presque, il va trop vite.
Bon, ceci dit, Stress n'a pas seulement un problème avec les venants, il a aussi un problème avec les partants, comme sa copine Clara, qui est partie vivre à Paris, et je suis resté à quai. Et depuis Marseille, je l'ai vue se transformer. Paris réinitialise les disques. Elle a pensé les dernières imperfections, une marque de fringue trop voyante, ou son petit accent de la fille qui a grandi à Vauban, au pied de Notre-Dame de la Garde. Direction la sobriété bourgeoise. Je suis sorti de sa vie comme on enlève un navet de son couscous. J'ai su dit ça en direct sur Facebook, je l'ai vu en photo au bord du canal Saint-Martin dans une grande gabardine kaki et sur un vélo électrique. Je l'ai vu boire son vin naturel, sourire à son mec en enfouissant son visage dans son col, rue de Charonne, descendre les escaliers du métro, rue des Boulets, changer à République et taper leur digicode. Je l'ai vu cette série de clichés comme un blédard sans visa dans une cabine de cybercafé à Alger. Et pourquoi il est attaché à Marseille ? Pourquoi il maudit les venants, les partants, les sortants?
Non, il y a un autre truc qui dit, à la fin de cette citation, je dis Marseille, cette ville, elle me pègue
au doigt. Ça veut dire quoi d'ailleurs?
Elle me pègue, ça me colle. Elle me colle au doigt comme un gâteau tunisien. C'est le côté un peu où on n'arrive pas à partir, mais comme on n'arrive pas à partir du quartier, comme on n'arrive pas à partir de cette ville. Cette ville, honnêtement, quand tu grandis, tu vas où après? Tu vas où?
Ambiance scandale, danse de vandale, d'en d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, d'en d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox.
Alors les amis de Stress, ils n'étaient ni DJ, ni breaker, ni graffeur. Ils vivaient, oui, dans la rue, au panier. Il est temps peut-être de les nommer, les amis de Stress, Hicham, Kassim, Jamel et Ange. Comment les décrire?
C'est la collection soldée du panier. Comme on dit à Marseille, c'est un peu dur de dire ça, mais on était un peu, comment dire, des dégains. Des dégains, c'est des personnes, on était personne. On avait, tu viens de mettre la FF, on avait la FF en face de nous, en
la
bas.
Funky Family.
La Funky Family, on avait Laura Luciano, on avait Menzo, qui étaient des figures du quartier, qui traînaient. Le panier, je le décris, c'est des places. Des places comme des territoires. Nous, on avait la place des Moulins, qui est la place la plus visible de tous, qui est la plus en hauteur, dont personne ne veut, parce que tu peux pas dealer, tu peux pas faire de conneries, tout le monde te voit. Et nous, on avait pris ce territoire-là. Et en fait, aussi, c'est vrai que c'est pas vraiment des dégâts. En fait, c'est ce qui m'intéressait, même à l'époque, hein, j'ai traîné avec eux. En fait, finalement, on est tous des venants. Ange, il vient de Toulon. Kassim, il vient des Comores. Enfin, plutôt de Mayotte. Nordine, il vient de Alger. Hicham, il vient de Oran. C'est tous des gens qui viennent d'ailleurs. Et en fait, ce qui m'intéressait, même à l'époque, c'était leur culture, en fait. Ils arrivaient, ils avaient quelque chose de brut. Ils avaient quelque chose à amener. Ils avaient quelque chose à m'amener. Comme j'avais quelque chose à leur amener, c'était le rail, c'était la manière de boire un café, c'était leur fringue n'importe comment, Petit à petit, et ce que je décris dans la scène de mariage arabe, et c'est là où je suis déçu, c'est que ils prennent le moule, quoi. Ils changent et ils se façonnent, ils rentrent dans le circuit. Mais à l'époque, on était un peu des ovnis, même au panier. Mais on était bien entre nous.
Un extrait de votre roman Adria Bels, 5 dans tes yeux. Et comme c'est votre premier roman, je vous laisse lire vous-même l'extrait. Page 35.
On va où? J'avais toujours envie de savoir où on irait et ce qu'on allait y faire. Les retards des potes, les plans foireux, les Inch'Allah demain. Pour dire que rien n'arriverait demain ou que de toute façon, c'est Dieu qui déciderait. J'arrivais pas à m'y faire. Ça va, arrête de t'affoler, Stress. On attend Kassim. Quand il me parlait, Ange perdait son sens de l'humour. On était les deux cubans de la bande. Je sentais parfois chez lui le désir d'en finir avec moi. Ange était corse, fils de père mafieux de la grande famille toulonnaise. Quand son père Dédé Vasani est mort, Ange a atterri à Marseille, chez sa mère. Il n'était pas chez lui ici, fragilisé, comme un chien errant. Mais il avait hérité de cette capacité à sentir quand on peut prendre le dessus sur l'autre. Ange reniflait chez moi toutes ces manières de petit bourgeois que je dissimulais sous un accent un peu forcé, une démarche travaillée, une tête rasée de près et une accumulation de fringues de marque. Je portais la panoplie complète de la petite frappe marseillaise. Mais mon regard était celui d'un agneau. Et le regard, dans la rue, c'est ta carte d'identité.
Et dans ce roman qui, d'une profonde humanité qui célèbre l'amitié, Adrien Bels, vous évoquez ce que c'est que qu'être blanc et différent et minoritaire dans les quartiers populaires où la misère a chassé la mixité dite culturelle. Alors, c'est bien parce que cette thématique n'est traitée, hélas, que par l'extrême droite et ses satellites en ce moment. Ça aboutit à ce qu'ils nomment le racisme anti-blanc. Alors que vous racontez, j'allais dire de l'intérieur, et après avoir vécu ça, à quel point c'est un peu plus complexe.
Ah ouais, c'est beaucoup plus complexe. Moi, c'est ce qui a fait mon livre. C'est ma langue. Après, moi, et je le décris un peu dans le roman, j'ai vécu dans une famille. J'ai pas vécu avec une seule mère. J'ai vécu avec un enracinement quand même assez fort avec l'Algérie. Donc on arrive d'Algérie. Ma mère, elle m'a porté en Algérie.
Donc ça, c'est le côté documenté du roman. Votre mère était prof des Beaux-Arts à Alger. Non, ça, vous l'avez inventé.
C'est transformé, mais c'est pas loin. Ma mère, elle recevait tous les intellectuels algériens pendant la guerre civile. Elle avait monté une association de défense des intellectuels algériens. Donc, on était vraiment là-dedans. Ouais. Après, ils sont arrivés là-bas. Je disais à ma mère, la dernière fois, je disais, tu as planté le drapeau bobo un peu à Marseille, au panier. Elle me dit, ouais, mais bon, à l'époque, il fallait y aller, quoi. Voilà, le venant, il arrive quand la place, elle est chaude, quand tout est bien installé. Nous, nous, non.
Donc, vous racontez cette double vie, c'est-à-dire une vie avec vos amis, où il faut survivre. Hein. Vous racontez d'ailleurs tous les petits boulots, légaux et illégaux, c'est-à-dire aussi bien voler, revendre votre butin au puces de Marseille que de travailler à l'usine. Mais c'est aussi un livre sur qu'est-ce que un jeune homme blanc peut avoir comme amitié, comme affinité, comme histoire d'amour dans des communautés qui constituent Marseille.
Ça prend du temps et ça demande comme je dis, ça demande, c'est une plongée en fait. Ça prend du temps pour comprendre les codes. Après, j'ai vécu dans une autre époque aussi. J'ai vécu dans l'époque des années 90 où peut-être on était en marque directe avec la culture. En fait, oui, c'est clair que.
Mais ça reste quand même une double vie, la vie. Oui, parce que par ailleurs, vous avez vécu dans une maison où il y avait des livres, vous citez des auteurs.
C'est un chaud-froid permanent. Ouais. Comme je dis, à un moment donné, je dis, ouais, il y a un mec de la BAC qui me colle contre un mur, qui me dit, on te connaît blond. Et après, je rentre et ma mère, elle est en train d'écouter Pierre Boulez sur France Culture ou sur France Musique. Ouais, c'est un chaud-froid permanent. Après.
Évolu.
Ouais, en fait, c'est une culture où je me sens bien. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un sur les mariages arabes aussi, que je fais.
Que vous filmez, ouais.
Je filme. Ouais. Depuis maintenant 5 ans au moins. Et je le dis pas dans le bouquin, mais à niveau social égal, un mariage français, c'est pourri, quoi. C'est horrible. Un mariage arabe, c'est de l'accueil, c'est beaucoup d'amour en fait. Beaucoup d'amour et ouais, j'ai vraiment j'ai reçu ça, je pense, de leur part. Et après c'est des détails de fou, c'est des trucs dans la manière d'être, le rapport à l'argent, le rapport aux femmes, le rapport à c'est très compliqué de comprendre tout ça, le rapport à l'hygiène, le rapport à c'est des trucs cons, mais péter, roter, qu'est-ce qu'on fait, c'est des trucs qui prennent du temps pour comprendre et pour aller loin dans la relation.
Dans le roman, Stress veut tourner un film sur ses amis d'enfance 20 ans après. Plus personne n'habite le panier. Il va devoir négocier avec les nouveaux acteurs culturels de la ville de Marseille. Et là, vous décrivez ces milieux, mais alors avec une férocité incroyable.
Le milieu culturel. Ouais, j'ai toujours eu un côté un peu sur le milieu subventionné. J'ai toujours eu un côté un peu dur. Après, ça reste un roman et il fallait bien que je tape sur quelqu'un. Mais ouais, j'ai essayé le cinéma et. En fait, il y a un côté. Ouais, c'est vrai que le regard, il est dur et je sais pas.
On ne sait pas où vous classez, plutôt du côté de Michel Houellebecq ou de John Fante.
John Fante. Ouais. Mais j'adore Houellebecq aussi. Mais John Fante.
Ah, ça m'étonne pas.
Tu pouvais pas tomber plus juste. John Fante, à fond. Déjà parce que j'aime bien la littérature qui me fait rire. Et tu l'as dit au début, là. Tu as dit, ouais, on fait un truc. Moi, j'aime faire rire, mais pas que. Mais je pense qu'un livre, on a le temps.
Et soigner, bien sûr, l'image romanesque du loser, ouais, de l'anti-héros.
Ouais, mais c'est bien. J'ai dit, c'est un peu à l'image de Marseille. C'est-à-dire que, voilà, à la fois, le Marseillais, il fait rire pour cacher son malheur ou pour cacher qui il est vraiment.
Alors ce film, il s'est fait ou pas?
Non, il s'est pas fait.
Et du coup, ça se transforme en roman?
C'est ça.
5 dans tes yeux?
Ah ouais.
Et il va être acheté et sans doute beaucoup être apprécié par les venants.
Ouais.
On peut le dire.
Sûrement. Non, le film ne va pas se faire et je trouve ça intéressant, finalement, ce côté un peu, je dirais presque proustien, quoi.
Ouais.
Il y a un côté, c'est un journaliste, là, qui me disait, journaliste de Mars Actu, qui me disait, ta Madeleine de Proust, c'est les brochettes de foie, quoi. Tu vois, je trouvais ça assez bien vu. Et voilà, le mec, en fait, le fait qu'il n'arrive pas à faire ce film, il y en a d'autres qui le font à sa place. Et ouais, ça se transforme en roman, finalement. Et
que sans doute ses amis ne liront pas. Je pourrais lui parler des heures à ma ville, de ces voyous, de ces grandes gueules, de ces mecs qui valent pas un clou, de ces filles avec trop de rouge à lèvres sur les lèvres, et de ces petits bourgeois qui traversent jamais la Canebière, de ces qui prennent un accent forcé en gueulant fort « Allez l'OM !», de ces venants qui écrivent leur histoire sur des pancartes de manifestation et qui affirment à haute voix « fiers d'être Marseillais ». Ils ont bien compris, c'est sans honte, que le plus important, c'est pas d'être Marseillais, mais de le faire croire. Et Marseille les écoute, parce que depuis des siècles, des incapables lui disent quoi faire. Elle en a marre, elle veut se sentir désirable, elle se tire les cheveux, les décolore, elle voudrait ressembler à Bordeaux, Lyon ou Aix, avoir des trottoirs immaculés, des voitures bien garées et des pistes cyclables. Moi, je la trouve belle comme ça, avec ses mots simples et ses manières de fille de rue. Mais elle s'en fout de moi, elle a pas le temps d'écouter, mais c'était mieux avant. Elle veut vivre, se casser la gueule et se relever toute seule. C'est extrait de « 5 dans tes yeux » d'Adrien Belle. C'est le moment de nous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça, « 5 dans tes yeux ».
Ah, « 5 dans tes yeux », c'est l'expression « khamsa fa'inik ». C'est la main que je pose sur ton regard, le regard malveillant que tu peux me jeter. C'est pour me protéger de ton mauvais œil. Donc je pose ma main, je pose mes 5 doigts de la main sur ton regard. C'est une expression qu'on utilisait beaucoup dans les années 90. C'est ça qui m'intéresse aussi, parce que la main de Fatma, elle a disparu un peu. La main de Fatma, elle reliait un peu les Juifs, elle reliait les Arabes, elle reliait les Berbères, en fait, c'était des traditions. Et elle est beaucoup moins présente aujourd'hui. Et je peux la relier un peu aussi à Notre-Dame de la Garde, qui est un peu notre emblème marseillais. Fatma, Notre-Dame de la Garde, on est sur des personnages féminins comme ça. 5 dans tes yeux, il y a aussi un côté... Il y a 5 personnages et je te les mets dans la face, quoi.
Le quartier, je l'aime avec ses avantages et ses inconvénients. C'est mort et c'est vivant. Vous avez qu'à déménager. Ralentisseur, dodane, détroit, ça changera rien. On est là, on y vit, on y meurt, on y rit et on y pleure.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et ce matin, j'étais avec Adrien Belz, qui publie son premier roman, remarquable premier roman, que je vous recommande vivement, 5 dans tes yeux, aux éditions L'Iconoclaste. C'est une nouvelle carrière qui s'ouvre pour vous. Vous allez continuer à écrire.
Inch'Allah.
Merci d'être venu, Adrien Belz.
Culture. L'esprit d'ouverture.
Cette semaine sur France Culture, la série documentaire Cherche la petite bête, Perrine Kervran.
Du chien fidèle au chien errant, de la puce à la punaise, en passant par les animaux d'élevage ou les grands singes, il faut l'admettre, nous vivons en permanence avec les animaux. Alors LSD vous propose d'en savoir plus sur ses voisins si proches et on espère bien que toutes les espèces seront au rendez-vous de l'autre côté du poste.
LSD, du lundi au jeudi à 17h et 23h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Martial Solal à l'Auditorium de Radio France. Vendredi 11 septembre à 20h, l'Orchestre National de France présente, sous la direction de Gisco Sirven, trois concertos composés par le prolifique et génial Martial Solal. Avec la participation de Jean-Charles Richard, Denis Leloup, Jean-Paul Séléa, Hervé Célin, Éric Ferrankawa et François Merville. Réservation maisondelaradio.fr. Entrée au cœur du concert.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La Brittany Ferries arrête ses liaisons depuis Cherbourg et Le Havre aujourd'hui. Sur les 12 bateaux de la compagnie maritime, 7 restent à quai. Le manque de clients fait tanguer l'entreprise, vous l'entendrez. Le masque est bel et bien obligatoire à l'extérieur en France. Le Conseil d'État valide les pouvoirs des préfectures localement. Alors que dans les Bouches-du-Rhône, l'épidémie de Covid-19 inquiète dans les hôpitaux. Témoignage depuis Marseille dans ce journal. Nous nous intéresserons aussi à la 5G et à ses possibles effets sur la santé. Un rapport à ce propos doit être remis au gouvernement aujourd'hui. Les experts n'avaient que 2 mois pour s'y pencher. Et puis notre correspondant en Russie nous expliquera comment fait l'opposition pour convaincre en l'absence de sa tête d'affiche Alexei Navalny. Il est toujours dans le coma hospitalisé à Berlin. Les dirigeants de la Brittany Ferries en appellent à l'État. La compagnie maritime française vit sa pire crise de son histoire entre le confinement du printemps, la crise économique depuis et le repli du tourisme. Faute de passagers et en raison d'importantes difficultés financières, la Brittany Ferries va désarmer 2 nouveaux bateaux aujourd'hui. 7 des 12 bateaux de l'entreprise sont donc à quai, Catherine Pétillon.
Cherbourg, Saint-Malo, Le Havre. Jusqu'au mois de mars, ces villes ne verront plus de bateaux de la Brittany Ferries partir pour l'Angleterre. La compagnie maritime ferme peu à peu ses lignes. Les bateaux resteront à quai et le personnel au chômage partiel. Pour payer ses fournisseurs et ses salaires, l'entreprise a emprunté 117 millions d'euros dans le cadre des PGE, les prêts garantis par l'État. Faute d'activité suffisante cette année, elle en appelle à l'aide des pouvoirs publics pour être en capacité de rembourser dès l'an prochain, tout en préservant l'emploi. Un plan interne devrait générer 15 millions d'économies via des CDD supprimés, des non-remplacements de départ à la retraite et la polyvalence des salariés dont les postes et le temps de travail pourraient évoluer. L'entreprise a aussi obtenu des soutiens politiques locaux. Il faut dire que c'est un créateur d'emplois direct et indirect majeur dans la région. Les collectivités locales sont coactionnaires de sociétés possédant une partie des bateaux utilisés par la Brittany Ferries. Un accord doit être signé cette semaine qui permettra à l'entreprise des économies sur les loyers, là aussi à hauteur de 15 millions d'euros. Les députés de la région ont aussi porté l'appel fait au gouvernement. La Brittany Ferries demande une exonération des cotisations salariales des marins, comme c'est déjà le cas pour les cotisations patronales. Une mesure de compétitivité avec ses concurrents mondiaux, estiment les dirigeants. Sur le principe, l'appel à l'aide semble en tout cas avoir été entendu par le gouvernement. « Nous sommes prêts à soutenir l'entreprise pour bâtir un modèle économiquement viable sur le long terme », a déclaré la semaine dernière Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie a ainsi mandaté le comité interministériel de restructuration industrielle pour étudier la situation de la compagnie.
Catherine Pétillon, que nous retrouverons tout à l'heure sur France Culture à 7h25 pour le reportage de la rédaction qui a été tourné en Bretagne auprès des clients et des salariés de la Brittany Ferries. Je rappelle que depuis la mi-août, une quatorzaine a été imposée par le Royaume-Uni à tous ceux qui arrivent de France. Un nouveau coup dur pour cette compagnie maritime. La quatorzaine en France maintenant, elle pourrait être réduite. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, envisage en tout cas d'assouplir cette mesure pour les cas contacts asymptomatiques. Pour se protéger du nouveau coronavirus encore, le masque est toujours d'actualité, lui, et il a été validé par le Conseil d'État hier soir. Conseil d'État qui entérine en grande partie les arrêtés préfectoraux sur la généralisation du port du masque en extérieur, mais il précise cela peut se faire dans les zones denses et les zones à risque. Avec près de 25 000 nouveaux cas ces 3 derniers jours en France, les indicateurs de l'épidémie continuent globalement de se détériorer. Et c'est particulièrement le cas dans les Bouches-du-Rhône. Dans les hôpitaux du département, 1 patient sur 4 est malade du Covid-19. C'est ce que révèle l'assistante publique des hôpitaux de Marseille qui veut lancer l'alerte. Une 60aine de lits de réanimation sont occupés selon l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Il devient donc difficile de gérer les hospitalisations classiques en plus des cas Covid. Pour Laurent Papazian, chef de la réanimation de l'hôpital Nord à Marseille, la situation pourrait se compliquer très rapidement.
Risquons fort en 2, 3, 4 semaines d'être en très grosse difficulté et de ne pas pouvoir prendre en charge tous les patients et peut-être de devoir évacuer des patients vers d'autres régions et aller vers des déprogrammations de programmes opératoires, ce qui serait tout simplement catastrophique. La situation est particulièrement préoccupante sur la ville de Marseille. Dans les villes environnantes, la situation est moins critique et c'est pour ça qu'on opère des transferts de patients, d'autant que les moyens ne sont pas extensibles et que pour l'instant, on est sur une capacité de lits qui est constante et on n'a pas les moyens d'augmenter de façon très significative le nombre de lits de réanimation par faute de personnel médical et soignant.
Des propos recueillis par Nina Valette. Le gouvernement prendra-t-il en compte les études scientifiques et environnementales sur les risques potentiels de la 5G? Alors que le secrétaire d'État au numérique Cédric O affirmait vendredi qu'aucune question de santé n'était soulevée par la 5G et que le déploiement de cette nouvelle fréquence se fera bientôt en fin d'année, un rapport doit être remis au gouvernement aujourd'hui, Tara Schlegel.
2 mois et 5 jours, voilà le temps que les inspecteurs ont eu pour travailler sur l'épineux dossier de la 5G. Alors que les premières fréquences ont déjà été mises aux enchères le 31 décembre dernier, alors que dans 14 villes, des plateformes 5G existent déjà, alors que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, sont en train de rédiger un rapport sur les effets sanitaires qui ne sera remis qu'en 2021, ce sont d'autres instances qui sont entrées dans la danse cet été. Elles doivent examiner des expériences étrangères. Angleterre, Allemagne, Chine, Espagne, Italie, États-Unis, Suède et Suisse. La lettre de mission leur demande d'analyser les conclusions des autorités sanitaires de tous ces pays à propos de la 5G. Elles doivent aussi estimer l'augmentation à venir des niveaux de rayonnement auxquels nous serons soumis. Ce qui est difficile car justement, il n'existe quasiment pas d'études sur le sujet. Et c'est d'ailleurs la question que se pose dans son rapport préliminaire l'ANSES qui se demande si l'on peut extrapoler à la 5G, ce que l'on sait déjà des effets de la 4G. Les associations qui militent contre le déploiement de cette nouvelle génération, en rappelant qu'il y a des centaines d'études qui montrent que les ondes électromagnétiques perturbent les cellules jusque dans leur ADN et amplifient certains cancers chez le rat notamment, ces associations ont été auditionnées il y a moins de 10 jours par les inspecteurs. Vu les délais, elles redoutent que le travail de synthèse ne soit un peu bâclé.
Le patron de Suez tira boulet rouge sur Veolia. Bertrand Camus qualifié d'aberrant le projet de rachat par Veolia de la part d'Engie dans Suez. Il dénonce ce matin dans les colonnes du Figaro une opération financière opportuniste et même funeste pour la France. L'offre de rachat de Veolia avait aussi été repoussée par les syndicats qui appellent d'ailleurs les salariés de Suez à débrayer pendant 2 heures demain matin. Des dizaines de milliers de Bélarusses ont défilé de nouveau hier à Minsk à l'appel de l'opposition. Elles réclament le départ du président Bélarus. Alexandre Loukachenko. Le régime a répondu par de nouvelles arrestations à la mobilisation des étudiants. Ils avaient multiplié les actions et s'étaient même mis en grève après la rentrée du 1er septembre dernier. Plus à l'est maintenant, le bras de fer continue toujours autour de l'opposant russe Alexei Navalny. L'Allemagne, qui l'accueille et qui le soigne, a demandé hier encore des explications sur son empoisonnement avant de possibles sanctions contre Moscou. Et en Russie, que se passe-t-il pour l'opposition? En l'absence d'Alexei Navalny, des élections partielles régionales auront lieu dans moins d'une semaine et le Front de lutte contre la corruption ne rate pas une occasion de se mobiliser partout dans le pays, Claude Bruyot.
À Khabarovsk, à 7000 km de Moscou, le collectif d'Alexei Navalny est au cœur du mouvement d'opposition qui manifeste contre le Kremlin et contre l'arrestation du gouverneur local chaque samedi depuis 2 mois. L'absence de leur leader ne les a pas découragés. Pas davantage à Moscou, la stratégie du vote intelligent d'Alexei Navalny sera reconduite en fin de semaine à l'occasion des scrutins régionaux et locaux. En appelant à voter pour le candidat, quel qu'il soit, le mieux placé pour battre le représentant de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, les Navalnistes à Moscou ont fait perdre l'an dernier un tiers de ses sièges au camp présidentiel. Une stratégie payante pour l'opposant Alexandre Soloviev, 32 ans, qui a côtoyé Alexei Navalny dans son combat contre la corruption du pouvoir.
C'est un système idéal dans mon cas. Parce que ma candidature a été interdite, j'avais été arrêté et emprisonné. Parce que je m'opposais au candidat du pouvoir. Et grâce au vote intelligent, c'est mon idée qui s'est réalisée.
La difficulté pour le camp d'Alexei Navalny, qui revendique plus d'une cinquantaine de relais régionaux structurés, ne se situe pas au niveau de la mobilisation, mais davantage sur le plan financier, soumis à des saisies régulières et à de très fortes amendes.
C'était Claude Brouillot pour France Culture. Julian Assange, de retour devant le tribunal. Interrompu par la pandémie, l'audience reprend aujourd'hui à Londres pour statuer sur la demande d'extradition des États-Unis. Julian Assange y risque jusqu'à 175 ans d'emprisonnement pour avoir publié via Wikileaks des documents relatant de possibles crimes de guerre commis par l'armée américaine. Wikileaks a-t-il rendu la diplomatie plus transparente? Question posée par Julie Gacon à son invité des enjeux internationaux. Ce sera dans 5 grosses minutes sur France Culture. Le temps pour moi de vous donner la météo du jour. Frais et ensoleillé, voici le temps prévu ce lundi sur l'Hexagone après un risque d'averse ce matin sur le sud-est. Comptez 10 degrés ce matin à Clermont-Ferrand, 12 à Rennes, 14 à Lille, Paris, Strasbourg, 20 degrés à Marseille. Il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Dans votre journal des idées ce matin sur France Culture, hommage à l'anthropologue David Graeber. Oui. Cette figure du mouvement Occupy Wall Street est décédée mercredi dernier à l'âge de 59 ans.
Oui, je cite, depuis le début de la pandémie, ses travaux opposant les boulots à la con, bullshit jobs, au métier du soin, le care, sous-payé alors qu'indispensable à nos sociétés, ont une résonance particulière avec l'actualité, souligne Marie Charel dans Le Monde. Son ouvrage sur la dette 5000 ans d'histoire, est un monument de finesse et d'érudition anthropologique et historique. Salut Thomas Piketty. Il y montre que la dette est à la fois une convention sociale et le fondement des relations de pouvoir, d'inégalité et de domination. Bullshit Jobs, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent en 2018, est consacré aux salariés de la finance, du marketing, du management ou de l'information, occupant des emplois inutiles, absurde, voire nuisible et grassement rémunéré. Le consultant, dont les rapports ne sont lus par personne, l'assistant brassant de l'air car son chef a besoin de justifier sa position hiérarchique, l'avocat d'affaires gagnant de l'argent uniquement grâce aux erreurs du système. Sous cet angle, le système où nous vivons relève moins du capitalisme que d'une forme de féodalité managériale, observe l'anthropologue. Depuis les Trente Glorieuses, les salaires ont décroché par rapport aux profits. Ces derniers sont captés par le secteur financier qui les redistribue à un petit nombre de personnes, comme au Moyen-Âge, par le biais d'un jeu de strates et de hiérarchies complexes, expliquait-il dans un entretien au journal Le Monde. Selon lui, le passage de l'industrie au service durant le XXe siècle a fait exploser les emplois du secteur de l'information au sens large, informatique, finance, assurance, communication. C'est là qu'une bonne partie des bullshit jobs se concentre. En évoquant la période du confinement, Bruno Latour constate sur le site AOC qu'au milieu du chaos, de la crise mondiale qui vient, des deuils et des souffrances, il y a au moins une chose que tout le monde a pu saisir. Quelque chose cloche dans l'économie. D'abord parce qu'il semble qu'on puisse la suspendre d'un coup. Elle n'apparaît plus comme un mouvement irréversible qui ne doit ni ralentir ni bien sûr s'arrêter sous peine de catastrophe. L'homo economicus existe, mais il n'a rien de naturel, de natif ou de spontané. Relâcher la pression et voilà qu'il s'émancipe comme les virus soudainement abandonnés dans un laboratoire dont on aurait coupé les crédits. Et le sociologue se réfère à David Graeber. La mise en économie et le formatage qu'elle suppose nécessitent nombre d'opérateurs, de fonctionnaires, de consultants, de comptables, d'auditeurs de toutes sortes pour en imposer l'usage. Si l'on peut assez facilement compter le nombre de plaques d'acier qui sortent d'un laminoir, pour calculer la productivité d'une aide-soignante, d'un enseignant ou d'un pompier, il va falloir multiplier les intermédiaires pour rendre leur activité compatible avec un tableau Excel. D'où, d'après Graeber, la multiplication des jobs à la con. Dans l'Obs, l'archéologue Jean-Paul Demoule lui rend hommage. Il revient notamment sur les travaux menés avec l'archéologue David Wengro. Dans un article détaillé que la revue du Crieur avait publié, il mettait en cause le récit dominant de l'évolution des sociétés humaines, selon lequel nous serions passés de l'organisation tribale et égalitaire des chasseurs-cueilleurs à des sociétés plus complexes, avec l'agriculture et la production de surplus permettant à certains l'accumulation de richesses. richesse et d'influence, jusqu'à l'émergence des villes et l'apparition de nouvelles classes de bureaucrates et de guerriers politiciens qui accaparent le pouvoir et perpétuent les inégalités. L'idée sous-jacente à ce scénario, c'est que les inégalités sont un mal nécessaire, le fruit naturel d'une évolution qui nous a apporté par ailleurs la civilisation et l'écriture et la perspective du progrès technique. Un scénario que rien ne prouve, au contraire, les preuves s'accumulent pour mettre à mal ce récit linéaire et montrer l'imagination dont de nombreuses sociétés préhistoriques ont su faire preuve, faisant et défaisant les mondes politiques même après l'apparition des villes. L'enjeu du débat ouvert par Graeber et Wengrow, c'est, je les cite, de faire un sort aux prophéties lugubres selon lesquelles n'importe quelle forme complexe d'organisation sociale nécessite forcément que de petites élites prennent en charge les ressources clés avant de piétiner le reste du monde. Et dans l'entretien auquel j'ai fait allusion, David Graeber affirmait « Nous, les anthropologues, nous avons étudié comment d'autres sociétés fonctionnaient. Nous sommes les gardiens d'un trésor de possibilités qu'il nous faut partager pour rappeler à nos contemporains que notre modèle de société n'est pas le seul. » Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, Wikileaks a-t-il changé la diplomatie?
Oui, le procès en extradition de Julian Assange reprend aujourd'hui à Londres. Il avait commencé quelques jours en février et puis il avait été reporté en pleine crise sanitaire. Les États-Unis qui l'accusent d'espionnage voudraient le voir en prison jusqu'à la fin de sa vie. Mais Wikileaks a toujours dit faire œuvre de bien commun en révélant des dizaines de milliers de documents officiels provenant du Département d'État américain. Leur publication, écrivait Julian Assange en 2015, est la vivisection d'un empire vivant montrant quelle substance a coulé de cet organe et quand, pas seulement ces 20 dernières années d'ailleurs, mais jusqu'au mandat de Kissinger, Nixon ou Jimmy Carter. Ces câbles concernent la politique américaine en Irak, en Afghanistan, mais aussi en Tunisie, en Équateur, en Suède. Wikileaks a-t-il forcé la diplomatie à être, si ce n'est plus vertueuse, au moins plus transparente? Bonjour Benjamin Puybarreau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorant en relations internationales au CERI Sciences Po, enseignant à l'université de Namur. Vous travaillez spécifiquement sur le secret en relations internationales et en diplomatie. Alors, ce qui intéresse les bénévoles de Wikileaks, et je parle au présent parce qu'ils existent encore, on en parlera tout à l'heure, ce sont les documents officiels, qu'ils soient confidentiels ou pas. Et d'ailleurs, leur méthode, c'est largement le piratage. Comment ont réagi les États, d'un point de vue strictement technique, Benjamin Puybarreau, dans un premier temps, il y a 10 ans et au cours des dernières années? Est-ce qu'ils ont décidé qu'il était plus judicieux de partager davantage pour pas prêter le flanc aux critiques d'opacité? Ou est-ce qu'ils ont trouvé les moyens de se blinder, comme on dit, contre toute forme de piratage?
Alors, la réaction première de l'État américain, suite aux révélations de Wikileaks, ça a été en effet de trouver des parades techniques pour essayer d'éviter qu'une nouvelle fuite se produise à l'avenir.
Quel Alors, genre de parades techniques?
Des procédures de sécurisation des documents secrets, donc des procédures qui permettent, qui rendent plus difficile l'accès aux documents confidentiels. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Wikileaks, enfin les révélations de 2010 de Wikileaks, font suite à un mouvement de réforme de la communauté du renseignement américain. Qui, donc, dans le contexte des attentats de 2001, visait à un plus grand partage de l'information entre les différentes agences de renseignement. Et du coup, dans ce contexte, on peut considérer que Wikileaks est aussi une conséquence de ce plus grand partage de l'information. Finalement, les informations confidentielles, les informations classées secrètes ou top secrètes dans l'administration américaine, étaient accessibles par plusieurs centaines de milliers de personnes. Il y a énormément d'officiels américains qui ont une habilitation à donc voir des documents secrets. Et voilà. Finalement, la conséquence directe donc de Wikileaks, ça a été de mettre fin un peu à ce mouvement de partage de l'information au sein de l'administration américaine et donc de rendre plus difficile l'accès aux documents classifiés. Et du côté, donc ça c'est du côté du renseignement et du côté de la diplomatie, le constat est le même, c'est-à-dire que les premières actions de diplomates suite aux révélations de Wikileaks, ça a été aussi de trouver des parades techniques pour sécuriser leur communication et rendre aussi plus difficile de pareille fuite.
C'est vrai qu'on a eu l'impression que pour les diplomates, c'était un incident purement technique. Wikileaks, alors que politiquement, on peut rappeler quand même quelques faits révélés par ces fuites, ils sont très 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 nombreux, c'est impossible de les résumer, mais des actes de torture des autorités locales irakiennes sur des civils systématiquement couverts par les officiels américains. De même en Afghanistan, des assassinats ciblés, un nombre de victimes civiles constamment sous-évalué. Est-ce qu'on sait d'ailleurs dans quelle mesure la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, qui enquête sur les possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis notamment par les Américains en Afghanistan, dans quelle mesure elle s'appuie ou elle comptait s'appuyer sur les documents révélés par Wikileaks?
Alors, c'est assez probable, effectivement, que les révélations en 2010, donc des fameux journaux de guerre afghans, donc les fameux war logs, ont eu un impact sur, effectivement, les décisions de le procureur de la CPI de mener une enquête sur les crimes de guerre américains, et d'ailleurs aussi les crimes de guerre des talibans dans le conflit afghan. C'est vrai qu'en fait, les révélations de 2010 ont jeté une nouvelle lumière un peu crue sur ce conflit, et ont montré que cette guerre était loin d'être aussi propre, entre guillemets, que ce que l'administration américaine voulait le faire croire, en révélant notamment effectivement la présence d'une unité américaine qui avait pour objectif d'enlever et d'assassiner des chefs talibans, en prouvant aussi que les chiffres des victimes civiles du conflit étaient largement sous-évalués par l'administration américaine. Et donc toutes ces révélations de 2010 ont probablement eu un impact sur l'enquête qu'aujourd'hui veut mener le procureur de la CPI.
Et le Spiegel, à l'époque des plus grandes fuites 2010 de Wikileaks, avait dit, ça c'est sûr, ça va changer la politique étrangère des États-Unis, mais qu'ont fait les États-Unis la semaine dernière? Ils ont exclu Fatou Bensouda du système bancaire américain et ils l'ont inscrite sur la liste noire, ainsi que son adjoint. Les États-Unis sont signataires de la Convention des Nations Unies contre la torture, qui exige que les accusations de torture non seulement cessent, mais aussi fassent l'objet d'une enquête. Donc, ce fragot 242, cet ordre officiel de ne pas signaler les preuves d'abus de prisonniers par les forces de sécurité irakiennes, ce n'est pas seulement une question de morale, c'est aussi une question de droit. Est-ce que ça a créé un débat aux États-Unis sur cette question-là?
Alors,
est-ce que ça a au moins servi à ça?
Effectivement, alors le but avoué de Wikileaks en 2010 en révélant ces informations, c'est de créer le scandale. Et l'idée étant que du scandale va naître la mobilisation politique. Finalement, il s'est avéré que Wikileaks a largement surévalué la capacité d'indignation du public américain face à ces révélations. Il y a eu plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, notamment le fait que les informations publiées par Wikileaks étaient publiées de manière brute, c'est-à-dire que ils ont publié les journaux de guerre, qui sont des documents militaires très techniques avec beaucoup de jargon militaire et qui étaient donc du coup totalement illisibles par le citoyen américain moyen.
Au début. Ensuite, ils se sont liés avec des médias.
Mais ils ont quand même, enfin, Julian Assange et son organisation ont quand même sous-évalué au début la nécessité de créer du récit à partir des données. Ils sont vraiment partis du principe que publier un grand nombre d'informations brutes allait pouvoir précipiter le changement politique, et ils se sont vite rendus compte que les médias avaient quand même une fonction très importante, qui était celle de créer du récit à partir des données, d'attirer l'attention du lecteur sur certaines données, puisque les quantités d'informations publiées par Wikileaks étaient beaucoup trop importantes et beaucoup trop techniques pour être lues et interprétées par le citoyen moyen.
Ça a ouvert aussi un débat aux États-Unis, mais qui reste très circonscrit, notamment c'est l'ancienne colonelle américaine Anne Wright qui milite beaucoup qui a pris position très régulièrement contre la guerre en Irak, notamment des États-Unis, et qui rappelle sans cesse qu'aux États-Unis, tout l'édifice qui permet de classer des documents secrets défense repose uniquement sur des décrets renouvelés et modifiés en fonction des présidents en place, et que c'est une affirmation du pouvoir exécutif qui n'est pas soumise à un contrôle. Est-ce que ça pourrait changer sous Joe Biden? Le programme des démocrates, c'est de mettre fin, par exemple, entre autres en politique étrangère, au régime change, comme on dit, les Américains qui arrivent et qui, dans un pays, qui font en sorte que le gouvernement tombe. Les démocrates ne sont pas spécialement les amis de Wikileaks non plus.
Non, ils sont même plutôt les ennemis avoués de Wikileaks depuis notamment la campagne de 2016 et les révélations pendant la campagne, le piratage des mails du comité national démocrate.
Hillary Clinton, bien sûr.
Hillary Clinton. Est-ce que ça pourrait changer sous Joe Biden? Je ne crois pas. Parce que Joe Biden, je pense qu'il se situe un peu dans la continuité d'Obama en termes politiques, et finalement on l'a vu, le régime d'Obama ne s'est pas ne s'est pas caractérisée par une plus grande transparence de l'administration. Au contraire.
Est-ce qu'on sait au moins sur le terrain si les révélations de Wikileaks ont servi, par exemple, en Afghanistan, dans les négociations entre États-Unis et talibans? Est-ce que ça les a facilités? Est-ce que ça les a rendus plus difficiles? Est-ce que ça les a biaisés? Est-ce que c'était un exercice de transparence que ces négociations entre Américains et talibans?
Alors déjà, ces négociations ont été en grande partie caractérisées par le secret aussi, un secret qui caractérise souvent les négociations diplomatiques, qui est même assez essentiel à la plupart des négociations diplomatiques. Sur l'impact qu'a eu Wikileaks par rapport à la guerre en Afghanistan et aux négociations, alors déjà, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que les études d'opinion montrent que donc l'opinion publique américaine n'a pas vraiment changé d'avis par rapport à cette guerre après les révélations de 2010. Et sur le terrain, il y a eu un rapport confidentiel, un rapport interne de 2011, un rapport interne aux agences de renseignement américaines qui a été rendu public en 2017 par un média américain. Et ce rapport s'intéressait aux conséquences directes des révélations des journaux de guerre afghans sur la situation sur le terrain, et les conséquences c'était que finalement ça avait eu pratiquement aucun impact sur les opérations militaires américaines, et donc on peut s'imaginer aussi très peu d'impact sur les négociations de paix entre les talibans et l'administration américaine.
Benjamin Pibarro, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements, des réformes de plus long terme? Vous avez dit, je saisis au vol une phrase, le secret est assurément important dans certains cas, lesquels?
Le secret permet de se libérer des contraintes politiques internes, ce qui est très important dans une négociation diplomatique. Un exemple qui est souvent pris, c'est la négociation des accords d'Oslo en 93, à un moment où ni Israël ni l'OLP n'avaient intérêt à s'engager publiquement à négocier avec l'adversaire, puisque c'était trop coûteux politiquement. Le fait d'avoir pu négocier dans le secret, ça a permis la signature de ces accords. Un exemple plus récent, c'est 2015, l'accord sur le nucléaire iranien, qui a été permis par des négociations secrètes qui ont été menées dès 2013. Et là, en fait, ces négociations secrètes, elles ont permis d'instaurer un peu une confiance entre les différentes parties, sachant que donc les États-Unis et l'Iran avaient rompu leurs relations diplomatiques depuis plus de 30 ans. Et le fait de pouvoir négocier en secret, ça avait permis de créer cette confiance.
Voilà, et apparemment, c'est pas parce qu'elles étaient secrètes, ces discussions, que l'accord a été solide, puisque les États-Unis s'en sont finalement désengagés. Merci beaucoup, Benjamin Pibarro, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Et si Van Gogh n'était pas celui que vous croyez? Un fou, un génie, un peintre maudit, aussi ignoré de son temps qu'adulé d'une autre. Un peintre instinctif, méprisant tradition et ambition. Revenons aux lettres, aux toiles. Transparaît un esprit vif, cultivé, érudit, un artiste persévérant, parfaitement au fait du marché de l'art et de la valeur de son travail. La Compagnie des œuvres, Vincent Van Gogh, par Mathieu Garrigou-Lagrange, du lundi au jeudi à 15h sur France Culture et sur franceculture.fr.
C'est le grand jour. Sarah va retrouver sa grand-mère. Mais pour rire, se parler et profiter l'une de l'autre, elles vont devoir respecter une règle simple. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop.
Le virus est toujours là. Et 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts et de continuer à appliquer les mesures barrières. Ensemble, restons prudents.
Besoin d'aide ? 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Bonjour Guillaume Herner.
Mais bonjour Julie Gacot, bonjour à toutes et à tous.
6h57, les matins commencent bientôt et votre humeur du jour, Guillaume, le travail c'est la santé, mais le télétravail...
Bah oui, l'image du travail, Julie, est à peu près stable. L'image du télétravail, en revanche, n'en finit pas de changer. Il y a quelques mois, pendant le confinement, mais aussi après, nos responsables politiques insistaient sur le fait qu'il fallait télétravailler. Et puis là, par exemple, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, déclare « Il faut que les salariés reviennent travailler ». On ne peut pas bien travailler, a-t-elle ajouté, en n'étant jamais présent, ajoutant une corde à son arc, hein, puisque jusqu'à présent, les responsables politiques ne s'exprimaient pas sur la manière dont nous devions bien travailler. Maintenant, nous savons que ces femmes, ces hommes sont un peu des parents pour nous. Mais Il n'y a pas que les politiques qui ont un avis changeant sur le télétravail, la presse s'illustre également dans ce domaine. Le télétravail ouvre un boulevard aux pirates du web, titre Le Parisien, expliquant qu'il y a là un danger qui s'ignorait. Le Financial Times, lui, raconte l'histoire de Bob. Une histoire mythique dans le secteur informatique. Bob est un développeur informatique, père de famille tranquille en apparence, télétravaillant pour son entreprise, touchant un gros salaire. Sauf que Bob a un petit secret. En fait, Bob sous-traite son job à une entreprise chinoise pour une fraction de son salaire. Il a trouvé en Chine donc une entreprise qui acceptait de développer des programmes informatiques à sa place. Et cette astuce fonctionnant parfaitement, eh bien Bob a pris plusieurs boulots, son télétravail étant devenu un travail de donneur d'ordre. Le poteau rose n'a été découvert que parce que l'ordinateur de ce bon père de famille s'est retrouvé subitement localisé en Chine. Une drôle d'histoire qui ressemble à une légende urbaine, mais qui montre surtout parfaitement les résistances, les peurs par rapport au télétravail, comme s'il fallait toujours ajouter à la vieille règle « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » ce nouvel ordre. Et dans l'open space, s'il te plaît.